en titre de ce 14 mai, une nouvelle missile lancée par la Corée du Nord, le piratage informatique qui touche des dizaines de pays dans le monde. En France, la passation de pouvoir ce dimanche à l'Élysée. Et puis le Portugal qui remporte l'Eurovision pour la première fois de son histoire. Une missile balistique lancée par la Corée du Nord serait tombée dans la mer du Japon après un trajet de 700 km en 30 minutes. La Corée du Sud avait aussi confirmé la nouvelle et déclare qu'elle aidait les États-Unis à analyser les informations. La ministre australienne de la Défense, Marissa Payne, a condamné le tir de missile nord-coréen.
Australia regards this as both a reckless and provocative action that leads to instability both regionally and globally, and has condemned clearly in the past North Korea for this sort of behaviour, and we do so again today. We are working with our partners and our allies in the region and more broadly, the Republic of Korea, with Japan, with the United States and others, to press upon the North Koreans that this continuing course of action is not sustainable.
Voilà la ministre australienne de la Défense. Depuis vendredi, un piratage informatique touche des dizaines de milliers d'ordinateurs à travers le monde. Le système de santé publique en Grande-Bretagne est touché, ainsi que Renault en France. Précision d'Emmanuel Rebaud pour Radio France Internationale.
Après les hôpitaux britanniques, le ministère de l'Intérieur russe et de nombreuses organisations en Europe, c'est le constructeur automobile Renault qui vient d'être touché aujourd'hui par la vague de cyberattaques. Et le phénomène ne semble pas s'arrêter. Pour l'instant, il est assez difficile de déterminer qui est à l'origine de ce piratage informatique. Des experts en sécurité évoquent un logiciel volé à la NSA, l'agence de sécurité américaine, qui exploiterait une faille du système Windows. Mais rien n'est moins sûr. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ce logiciel prend en otage les usagers et verrouille l'accès à leurs fichiers avec une seule solution pour s'en débarrasser, payer une rançon. Le paiement qui s'effectue en bitcoins, une monnaie virtuelle anonyme, doit intervenir dans les 3 jours, sinon le prix double. Et si l'argent n'est toujours pas versé dans les 7 jours, les fichiers piratés seront effacés, précise le message. Les autorités américaines et britanniques conseillent, elles, de ne surtout pas payer. Les services de sécurité informatique des pays les plus touchés, comme la Grande-Bretagne, ont ouvert une enquête. En France, des mesures ont été prises, notamment pour protéger le réseau des hôpitaux.
Voilà, c'était Emmanuel Rebaud pour RFI. En Australie, pas de panique pour l'instant selon le gouvernement fédéral. Le ministre Dan Tehan, qui assiste le Premier ministre sur la cybersécurité, déclare que le gouvernement fait de son mieux pour protéger le pays de la menace.
Here in Australia, we have no reports of the ransomware attack impacting any of our health authorities here in Australia. I've spoken with the Australian Health Minister, Minister Greg Hunt. He has made sure that we have let state governments and territory governments to make sure that they are aware of what has happened.
Voilà, le ministre Dan Tehan. Le ministre du Trésor déclare que le gouvernement va mettre plus de pression sur les banques pour ne pas imposer d'autres taxes aux clients suite à la taxe gouvernementale imposée sur les banques cette semaine après la présentation du budget de 2017. On écoute Scott Morrison sur l'ABC.
We've resourced the competition regulator to ensure that the banks are honest in their dealings with their customers. That didn't happen last time when the Labor Party put on a bank tax. Chris Bowen said, well, the market's the market. That's how it works. So
but
they're not applying that test to us.
The problem here,
but we will put the pressure on, Barry, to make sure they don't pass these costs on. And if they do, they will say to every banking customer in Australia that you're right about the big bank.
But you're absolutely right about it, and
that's why they shouldn't do it.
When you refuse, though, to accept some of the blame if they do pass it on,
I accept responsibility for all of our decisions.
Voilà, Scott Morrison sur le programme Insiders de l'ABC. L'opposition fédérale déclare que le gouvernement avait imposé une taxe bancaire parce qu'il était à court d'argent. Il n'a pas consulté le secteur bancaire. Selon Chris Bowen de l'opposition fédérale, les banques menacent d'augmenter les taux d'intérêt, par exemple, pour couvrir les frais de cette taxe. On écoute Chris Bowen sur Sky News.
It was on the advice of the Council of Financial Regulators, Reserve Bank, APRA, ASIC. They said to me, as Treasurer at the time, we think you should have a fund to ensure that if there's ever a bank failure, unlikely but possible, at any point in Australia's future, there's a fund to ensure ongoing financial stability. It was the end of Western civilization. There will be hordes of locusts and petulance upon our society, we were told by the Liberals at the time. Now, Scott Morrison, he introduced it with no consultation, certainly no advice from the Council of Financial Regulators, and no fund, straight into consolidated revenue.
Voilà, c'était le porte-parole de l'opposition fédérale, Chris Bowen. En France, Emmanuel Macron prend officiellement le pouvoir ce dimanche lors d'une cérémonie à l'Élysée. Il est le plus jeune président de France à l'âge de 39 ans. Reportage Raphaël Rennes pour RFI.
C'est parti, en sonnant pour l'ensemble. Garde à vous.
Le colonel Langagne dirige la musique de la garde républicaine. Mais c'est sur un autre homme que les tambours et les clairons ont les yeux rivés. Le tambour-major se tient juste à côté du chef et rythme la musique avec sa canne. Il s'appelle Jackie Laforêt, 32 ans de service.
Nous faisons beaucoup de services dans la cour d'Élysée, mais celui-ci est quand même très très particulier. C'est quand même un grand moment national et international. Il y a de la fierté de participer à ces grands événements de la nation.
Ce dimanche, le major Laforêt participe à sa quatrième passation de pouvoir. De François Mitterrand à François Hollande, en passant par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, chaque cérémonie a eu son lot d'émotions et d'anecdotes, comme ce jour de mai, lorsqu'un président tout juste installé est venu passer les troupes en revue dans les jardins de l'Élysée.
Et là, il s'est positionné devant moi et il n'a plus bougé. Toutes les caméras sont sur vous parce que justement, le président est en face de vous et il ne se passe rien. Le président était un petit peu figé, lui aussi, sûrement par l'instant présent qu'il était en train de vivre, quoi. On se regarde droit dans les yeux et puis, ben voilà, et, allez-y, monsieur le président, passez les troupes en revue. Mais là, je ne peux pas lui dire, je ne peux pas lui faire signe. Donc c'était un moment quand même qui était assez particulier, assez... qui restera, oui, pour moi.
À la fin de l'année, Jackie Laforêt quittera la garde républicaine, départ à la retraite, après avoir accueilli à l'Élysée le plus jeune président de la Ve République.
Voilà, c'est beaucoup mieux, repos.
Voilà le reportage de Raphaël Rennes. La passation de pouvoir entre un président sortant et un président élu n'est pas simplement une cérémonie officielle. Il y aura aussi des secrets d'État à transmettre, la transmission des codes d'accès de la frappe nucléaire. Écoutez Alain Duhamel, essayiste et journaliste politique.
Au moment où les deux présidents s'isolent dans le bureau du président, le président sortant met au courant le président entrant de ce qui est secret au moment où les choses se passent, donc en règle générale diplomatique ou militaire, mais quelquefois ça peut être par exemple la mise au point d'un projet industriel ultra secret très important pour la France, des choses comme ça. Et donc il y a un côté, bon, je dirais pas roman policier, mais enfin il y a un petit côté qui paraît, bon, qui est impressionnant sur l'instant, qui quelquefois est dérisoire par la suite, parce que les secrets sont pas toujours des secrets considérables.
L'essayiste et journaliste politique Alain Duhamel. Le président des États-Unis Donald Trump déclare qu'il pourrait nommer un nouveau directeur de la FBI d'ici la fin de la semaine prochaine. Il a renvoyé James Comey après que ce dernier eût demandé plus de financement pour enquêter sur les allégations d'interférence russe dans les élections présidentielles de l'année dernière. Écoutez Donald Trump sur le choix d'un nouveau directeur.
Almost all of them are very well known. You know, they've been vetted over their lifetime, essentially. But very well known, highly respected, really talented people. And that's what we want for the FBI.
Donald Trump. Le pape François déclare qu'il sera franc avec Donald Trump lors de leur rencontre prévue pour le 24 mai prochain au Vatican sur les questions d'immigration et du climat. On écoute le pape.
Io mai faccio un giudizio.
I never make a judgment about a person without listening to them. I don't think I should do that. During our talks, things will come out. I will say what I think and he will say what he thinks. But I have never, never wanted to judge a person before hearing what they have to say.
Senza sentire la persona, no?
Le pape François. L'ancien président de la Malaisie, Mahathir Mohamed, accuse l'Australie de tourner un œil aveugle à la corruption dans son pays. Dans une interview à SBS, il attaque son successeur, Najib Razak, qui serait impliqué dans un scandale de corruption. Ce dernier dément les allégations. Mahathir Mohamed demande aux autorités australiennes de mener des enquêtes sur l'implication présumée de la ANZ Bank.
Australia has been involved to a certain extent, but it looks as if the government of Australia wants to avoid any involvement in this crime committed, the Australians have an interest in that bank. So I think Australia should show some interest.
Voilà l'ancien président de la Malaisie. Et SBS a demandé une réponse du bureau du Premier ministre Najib Razak et aussi de l'ANZ qui ont tous deux décliné l'offre de réponse. Élection ce dimanche en Allemagne pour la Rhénanie du Nord-Westphalie, un enjeu important pour la chancelière Angela Merkel en lice pour un quatrième mandat en septembre prochain. Le Portugal remporte l'Eurovision 2017 avec la chanson Amar Pelos Dois, interprétée par Salvador Sobral. Il a devancé la Bulgarie, la Moldavie et la Belgique. L'Australie a pris la 9e place. Un mot de sport avec le premier match du footy australien en Chine ce dimanche entre Port Adelaide et Gold Coast à Shanghai. Le match est à guichet fermé après la vente des 11 000 billets au Jiang Wan Stadium. 5 000 Australiens ont fait le voyage pour assister au match. Gillian McLachlan est le président de l'AFL et il se dit optimiste pour l'avenir de la compétition de footy australien en Chine.
It's a huge country and this is a long-term play. So 26 million people, I think, in Shanghai alone. So it's a long journey, but the energy and the interest has been amazing already. And you can't really use it as a proxy, but there's sort of a, you know, the investment in this game from local Chinese companies has been over $3.5 million. And I think that's a proxy for hopefully a broader and a more widespread and sustained interest in our game. So the early signs are encouraging.
Voilà le président de l'AFL en Australie. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 23 degrés, Adélaïde 21, Melbourne 16, Hobart 14, Canberra 15, Sydney 21, Brisbane 21, Cairns 29, Darwin 33 et Alice Springs maximal de 28 degrés. Un rappel des grands titres de ce 14 mai, une nouvelle missile lancée par la Corée du Nord, le piratage informatique qui touche des dizaines de pays dans le monde, en France la passation de pouvoir ce dimanche à l'Élysée. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench